Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.
Eh bien bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Périgord littéraire. Alors, cette semaine, nous allons rencontrer Suzanne Sergenton avec ses racontes, ses histoires de la Suzanne en ce temps-là. Alors, ce petit livret, il y en a trois, sont publiés par les abeilles de Bergerac. Alors, les abeilles de Bergerac, pour avoir des renseignements, c'est pas compliqué. Abeilles bergeracoises, avec au pluriel, avec un petit tiret entre les deux, @orange.fr, et je pense que vous aurez tous les renseignements voulus. Alors, ces histoires de la Suzanne en ce temps-là, donc c'est le deuxième volume, petit volume, de ces histoires. Alors, en quatrième de couverture, voilà ce qu'on nous dit, et je vais le répéter, elle a toujours vécu à Bergerac, dans une famille d'agriculteurs, vignerons, est très attachée à sa région et à son parler. Elle est membre active des abeilles bergeracoises depuis 2006. Elle nous livre ici ses souvenirs des tranches de vie, des anecdotes. Et il y a quelques vers à Calais Jolie, ma dordogne chérie, elle est à mes yeux ravie, le plus beau pays, on se distrait, on s'amuse. Mais c'est qu'on travaille aussi, pourtant ne rien, on abuse pour éviter le souci. Et il y a en dessous, vieille chanson que sa grand-mère lui chantait. Alors on va reprendre un peu ces histoires. Il y a un petit préambule qui s'intitule « À vous mes enfants, vous êtes celle de ma vie, le suprême encouragement pour aller de l'avant, relever la tête et imaginer le futur. Mes parents, les parents de mes parents et les aïeuls des grands-parents seraient fiers de vous. » Ils ont tant lutté, tant subi dans leur vie, leur seule envie était d'assurer à leurs descendants un avenir et la liberté. Que ces histoires vous encouragent, dans chaque situation, il peut y avoir des moments heureux, profitez de la vie, prenez chaque instant de bonheur et gardez-le comme un soleil au fond du cœur. Alors, bien sûr, je le répète, ces histoires sont bilingues et donc il y a une partie en français que je vais vous lire et une partie en occitan. Un occitan du bergeracois, mais qui est un peu celui du sarladé. Alors, il y a bien sûr plusieurs histoires. Alors, il y en a une qui s'intitule « Chacun sa lauriette ». Quelle chance avons-nous, depuis plus d'un siècle, nous pouvons admirer ces albums de photographies, ces moments de vie et souvent de bonheur ou de joie que nous avons vécu hier, l'an passé, il y a 10 ans, ou encore bien avant, quand Pépé et Mémé étaient jeunes. Alors, Pépé et Mémé, bon, c'est le terme courant pour les grands-parents. Je ne sais pas si ça se dit toujours, mais Pépé et Mémé, bon, pour moi c'était évident, je ne suis plus très jeune, donc c'était évident, c'est le Pépé et la Mémé. Alors je reprends la lecture, photo du temps de la vieille grange qui s'en dimanchait pour la fête au village, du tracteur acheté avec des premières économies et parti à la casse depuis tant d'années, du grand bis de l'oncle Édouard ou de l'attraction fleurie pour le mariage de la fille de la marraine de Pépé, photo du temps qui passe, et oui, la fille de la marraine du Pépé, ça fait quelque chose. Alors, ces photos, ces souvenirs, bien sûr, sont les miens, ceux de mon entourage, de mes anciens. Ils ne retrouvent pas dans d'autres albums. Ils reflètent notre façon de vivre et nos centres d'intérêt, parfois nos problèmes. C'est une image, un côté de la lorgnette qui s'anime dans notre imagination et allume d'autres souvenirs, d'autres visions à chacun de nous. Alors, on va voir un peu ces histoires. Alors, il y en a une qui s'intitule « Le plat de la mémé ». Alors j'ai envie de mettre sur le papier les contes et les récits que j'entends autrefois, que j'entendis autrefois, les morceaux de rire que me donnèrent ma mémé ou mon pépé, au coin de la cheminée à l'ombre du cerisier où nous écossions les petits pois, ou le dimanche autour de la table familiale. C'est vrai que le dimanche c'était quand même un jour où tout le monde aimait se retrouver autour d'une bonne table, et en hiver une bonne mique. C'était nécessaire. Alors donc je reprends la lecture. Guy était le fils du boulanger, son père était mort il y a déjà longtemps, laissant Julie, sa femme pas si vieille, et son garçon qui terminait tout juste son apprentissage. Guy était très compétent, toujours de bonne humeur, fils unique, il ne faisait pas plus de bruit que le chat. Il en fallut du courage, le pain était toujours bon, et tout le village savait que sous ses airs de dame, Julie avait bon cœur. Les années passèrent et Guy rencontra Ginette, se fut vite décidé et ce fut une belle noce. La cousine Ginette était une femme de caractère. Elle dut aller chez Julie, la mère de Guy, mais tout le village épiait l'avenir, laquelle des deux femmes tiendrait la queue de la poêle, personne ne le savait. Alors, à les bruches, chez une belle-mère, c'était pas toujours facile. Bien, alors personne ne vit rien, personne n'entendait rien, seul le chat qui ne dit rien et que Guy retrouva caché sous le lit. Alors c'était après le souper, la belle-fille faisait la vaisselle dans l'évier, elle cogna un plat qui lui descendait même, patatras, un morceau sur les carreaux. Julie sauta sur ses pieds, si ce n'est pas malheureux, le plat de mémé, il était dans la famille depuis plus de 50 ans. C'était un cadeau de noces, si encore ça avait été l'autre, celui aux fleurs bleues, mais celui de mémé. Ginette répondit, lequel vous voulez dire, celui-là? Elle prit le joli plat aux fleurs bleues et le jeta sur le calage, rap, c'est fait. Et Julie, depuis ce jour-là, ne trouva plus rien à redire à sa belle-fille, et Ginette fut la reine dans la maison. Ça ne s'arrange pas toujours aussi facilement. Alors, il y a bien sûr d'autres petites histoires. Il y en a une qui s'intitule Le Père Noël. Hein. Tous connus, le Père Noël, qu'on considérait comme un être vivant ou et non pas comme le papa et la maman. Voilà, alors, donc c'est deux dames qui discutent entre elles. Bonjour Christiane, bonjour Suzanne, nous faisons partie d'un voyage organisé par une de ces associations qui fleurissent nos campagnes pour éviter l'isolement aux personnes du troisième âge. Sur cela, car les gens de leur génération n'ont que peu voyagé pendant leur vie, et ceux du milieu agricole encore moins. De plus, tellement d'entre nous se retrouvent seuls après les accidents ou les embûches de la vie, les parties de Scrabble ou de Belote meublent un après-midi par semaine. Les repas dansants nous donnent l'occasion de dérouiller ensemble nos vieilles jambes et de nouer des connaissances. Les journées découvertes nous dévoilent les trésors de notre région et les voyages annuels rempliront nos veillées et nos albums photos. Je partage une chambre avec une dame de mon âge et le soir nous sympathisons. Conseillement échangé, nous sommes en pays de connaissance, découvrons avec amusement que finalement nous avons commencé l'école dans le même village et avec la même institutrice. Et à l'époque, instituteur ou institutrice était quelqu'un quand même d'important dans le village. Ah, madame Guillon, je l'adorais, j'ai tant pleuré quand nous avons déménagé. Ah, moi, non, alors c'était une peau de vache, me répondit-elle. Elle, je ne peux pas croire que l'on ne puisse pas aimer mon idole. Elle était sévère et m'a puni injustement. Et je n'ai jamais oublié, figure-toi qu'un bruit avait couru, comme quoi le Père Noël n'existait pas. Et moi, je l'ai répété à mes copines. Il y a même une qui s'est mise à pleurer. Alors là, elle a demandé des explications et m'a puni pour avoir répété des rumeurs. Alors là, bien sûr, l'autre personne éclate de rire. Pas possible. Mais tu as 2 ans de plus que moi. J'étais en cours élémentaire. J'ai toujours entendu mes parents dire que j'avais la langue bien pendue et déliée. Ils m'ont raconté une entrevue avec la maîtresse qui leur avait raconté de modérer les révélations sur la réalité, car je semais le trouble à l'école en proclamant que le Père Noël n'existait pas et que c'était papa qui me l'avait dit. Alors c'était toi qui étais à l'origine de tout ça et c'est toi qui m'as fait punir méchante. Et voilà pourquoi depuis, Christiane est devenue mon amie. Bon, dans la vie, tout s'arrange et puis le temps passant, ma foi, on oublie quand même beaucoup de choses. Alors, il y a une autre histoire qui s'intitule Le chasseur ou le tourbandit, le cochard. Alors, on disait 6 chasseurs et 6 pêcheurs, cela fait une 12aine de menteurs. Dans ma jeunesse, nous avions un voisin, Franck, était chasseur, pêcheur et surtout hableur. Il était bien connu pour ses exagérations et son goût pour épater la galerie, à croire qu'il ne finissait par se convaincre lui-même. Ça arrive. Alors, lors des mémorables gelées de 1956, je crois que la place de la Boucherie à Sarlat est restée bloquée, je crois, pendant pratiquement 3 semaines. Voilà, mais gelée de 1956, il racontait comment il avait tant ramassé de canards dont les pattes étaient prises dans la glace de la mare. Il avait dû les faire à l'aide d'une faux et les mettre dans une remorque derrière le tracteur, ce qui en faisait quand même pas mal. Rocoune de billets châtaignes grillées, que nous appelions virole, et le vin nouveau, loup bourru, et nous raconta la dernière chasse. Alors le bourru, c'est du vin qui est en train de fermenter, et il faut quand même faire attention, parce que ça risque, si on en boit trop, c'est bon, mais ça risque de faire mal au ventre. Voilà. Alors, vous avez vu le temps que nous avons eu le mois dernier, de l'eau, de la pluie le matin, les averses le soir et le déluge la nuit. Dimanche, je n'en pouvais plus, j'enfilais mes bottes, le manteau en caoutchouc, je pris le fusil et « Allez, allons-y, Taillot !» criai-je au chien. J'allais par les prés, par les vignes, par les champs, arrivé au bas-fond de la crosse. Le pré était noyé par de là, les ajoncs l'ont monté à mes genoux, ça ne m'arrêta pas, un peu plus loin j'avais de l'eau au-dessus de la ceinture. Les aulnes, les osiers, noyés ou quoi, dissimulés sous les branches basses et sonnent trois ou quatre paires de canards. Sans bruit, je mets un genou en terre, l'œil vif et pam, pam. En deux coups de fusil, quatre canards pour moi. Les rires des spectateurs lui passaient saluer sur la presse au tir, mais ne serait-ce pas plutôt à cause du niveau de l'eau. Et oui, parce que si l'eau quand même était un peu haute, autrement dit, il aurait bu la tasse. Voilà. Alors, on a vu la chasse, mais il y a aussi la pêche. Il y a les hableurs à la chasse, mais également à la pêche, voilà. Alors, le pêcheur empêchait de pêcher. Fernand était un vrai dur à cuire. J'étais toute gamine, mais je me souviens de son visage tanné, de sa carrure trapue, de son bagout. Toujours la pipe entre les dents, il animait les repas de famille, ses récits de prisonniers et de ses grands rires. Il en avait vécu des choses et des drôles de situations. Là-bas en Allemagne, il n'avait pas de rancune, juste une fierté, bon enfant, des choses faites pour la liberté et amuser des rouries employées pour s'évader. Cela me paraît beaucoup, mais personne maintenant ne saura. Il se serait évadé une trentaine de fois, surtout pour quelques heures, et parfois jusqu'à la ferme familiale, où parfois les gendarmes l'attendaient. Mais comme Fernandel à la vache et le prisonnier, il avait fini la guerre là-bas, loin de sa maison, loin de son Périgord et de sa vie paysanne. Là aussi, il en avait de drôles à raconter. Du haut de ses 8 ou 10 ans, de mes 8 ou 10 ans, je ne comprenais pas tout, mais une aventure me revint. Fernand aimait le grand air, sa pipe, sa terre et la pêche, bien sûr, un peu et même beaucoup le braconnage. Bah oui, à la campagne, hein, on peut braconner. Bon, donc c'est pas commandé. Donc un soir, il partit avec sa canne et ses appâts, arrivé au bord de la rivière, il retrouva sa barque amarrée sous les sols à l'endroit habituel. Il posa sa canne à pêche et sa besace sur le plancher humide de l'embarcation qu'il détacha de la berge abrupte. Il posa un pied sur le bord du bateau, prit son élan et celui-ci s'éloigna avant qu'il eût le temps de sauter. Imaginez un pied sur la barque fuyante et l'autre sur la terre ferme, qu'arriva-t-il? Eh oui! Bien sûr, un plongeon. L'eau n'était pas très profonde, mais quand même. D'un coup de rein, il refit surface, dégoulinant, mais serrant entre ses dents le tuyau de sa chère pipe, et il rattrapa de la main son chapeau flottant. Et il ne restait plus, bien sûr, qu'à revenir à la maison pour se changer. Alors, il y a une autre histoire, peut-être un peu plus longue, qui s'intitule « Faire du vélo ». On a tous eu un vélo quand on était jeune. Alors dans l'allée de la Carbonnière, c'était plus facile pour apprendre à faire du vélo. Plus plat et peu d'herbe au milieu du chemin. J'ai déjà 5 ans, c'est l'été, il y a longtemps que j'ai trouvé ce petit vélo rouge sous le sapin de Noël. Depuis l'urette, je circule autour de la cour et même dans la cuisine de mémé, autour de la table. J'ai bien grandi depuis quelque temps déjà. Papa a retiré des cales de bois qu'il avait mises sur les pédales pour que je puisse y atteindre plus facilement. Mais là, il a voulu enlever les petites roues sur les côtés. Et moi, je ne tiens plus toute seule sur la bicyclette, je ne peux plus rouler sans tomber. Maman me dit, tu veux que je t'aide? Elle met sa main derrière mon cou et m'encourage. Allez, pédale, je te tiens. Mais dès que je sens sa main devenir plus légère, je tombe. Deuxième tentative, ne t'arrête pas de pédaler. J'écarte les pieds, ma monture titube. J'arrive tout juste à la diriger vers l'herbe de bas côté, patatras, troisième essai. Maman court à côté de moi, je vais te tenir par le haut du tablier, ce sera plus pratique pour pédaler plus fort. Et sa voix un peu essoufflée, continue, pédale. Je serre les mains sur le guidon, j'appuie sur les pédales, je tremble encore un peu, mais tout roule toujours, continue. Et sa voix est un peu lointaine, bravo, continue, il semble si loin. Je n'ai plus à côté de moi, le guidon tressaute et je tombe. Mais je suis loin d'elle et elle rit. Tu as réussi, vois tout le chemin que tu as fait sans que je te tienne. Maman, comment je fais pour revenir? Je vais te tenir pour le départ, regarde bien devant toi, voilà, tu es reparti, continue. Bon, maintenant, il faut que tu apprennes à démarrer seul. Viens ici, à côté de cette grosse pierre, bande dessus, fais remonter la pédale de l'autre côté, et puis... Ça y est, c'est parti, et je roule seul, sans son aide. Mémé, viens voir, je pédale toute seule. et me voilà parti de nouveau autour de la cour. Puis deux ou trois tours, du gros ormeau, si vieux que son tronc est creux et sert de niche, un autre chien loup. De joie, je ne peux plus m'arrêter. Alors, donc elle va continuer quand même à pédaler, et puis elle va rentrer dans la cuisine pour montrer quand même à sa mémé qu'elle sait se débrouiller toute seule et que c'est une grande fille. Voilà. Et bien, sur ces bonnes paroles, mais je vous dis à la semaine prochaine. Voilà, au revoir, à bientôt.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.